Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour Mathieu Davignat.
Bonjour.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historien, coordinateur de recherche, et de la formation au château de Versailles. Vous êtes spécialiste du grand siècle et vous avez travaillé pendant vos recherches sur les valets de Louis XIV. Pour cette raison, dans la série Portrait d'un jour dans l'histoire, vous avez voulu nous présenter Alexandre Bontemps, valet donc du roi Louis XIV. Comment, Mathieu Davignat, devient-on valet de Louis XIV ?
Alors, les valets, en fait, il y a plusieurs moyens d'accès à la chambre du roi, soit par un talent particulier, soit en étant fils de valet de chambre. Alors, c'est ce qui est le cas d'Alexandre Bontemps, qui était fils d'un premier valet de chambre, mais son père, Jean-Baptiste, lui, avait accédé à la chambre par un talent particulier, c'est-à-dire que c'était un homme non pas nouveau, mais il s'était fait connaître comme bon chirurgien auprès du duc de Vendôme, qui l'avait présenté au roi Louis XIII. Louis XIII l'avait pris d'abord comme chirurgien ordinaire, puis comme premier chirurgien, et enfin l'a nommé comme premier valet de chambre en 1643. Et Alexandre Bontemps, notre Bontemps d'aujourd'hui, a succédé assez naturellement à son père par ce qu'on appelait des lettres de survivance en 1652, c'est-à-dire que le roi lui a accordé à Jean-Baptiste Bontemps le droit de céder sa charge à sa mort à son fils. Il est donc devenu comme ça premier valet de chambre du roi en 1652 et de fait en 1659 à la mort de son père.
C'est une forme de récompense ?
Oui, accéder, c'est-à-dire que pour ces hommes qui sont quand même issus de la bonne bourgeoisie, qui ne sont pas nécessairement aristocrates de naissance, mais qui le deviennent, du moins, qui obtiennent le titre de noblesse par cette charge, c'est une récompense et qu'on pourrait qualifier de suprême pour ce genre de personnage, du moins ce genre de type social, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas espérer beaucoup mieux dans la hiérarchie de la maison du roi.
Et vous dites qu'ils ne pouvaient pas espérer beaucoup mieux, mais pourtant, et vous allez nous le présenter, c'était une charge extraordinaire.
Oui, c'est une charge complètement de confiance. C'est-à-dire que le premier valet de chambre du roi, aujourd'hui, on pense évidemment valet de chambre. Alors, ce n'est pas du tout le cas au XVIIe siècle. Et de même, Louis XIV donnera à cette charge une importance inégalée qu'elle n'avait pas connue auparavant et qu'elle ne connaîtra pas ultérieurement. Alors, c'est vraiment... aujourd'hui, on pourrait comparer cela à un secrétaire particulier du roi, avec vraiment l'étymologie secret qu'on retrouve dans secrétaire. C'est vraiment l'homme de confiance du roi.
Oui, donc homme de confiance de Louis XIV qui a précisément, et tout d'abord, des missions secrètes.
Oui, alors...
Quel type de mission ?
Alors, les missions secrètes, par définition, sont secrètes, mais on a quelques éléments qui nous font voir que ces hommes sont utilisés dans des missions. Alors, on a un remboursement, notamment en 1665, d'une forte somme à Alexandre Bontemps, où il est simplement spécifié pour affaires du roi, mais sans plus de précision. Alors, toutes ces missions secrètes, on ne peut que les deviner, et du moins, non pas deviner ce en quoi elles consistaient, mais les subodorer, parce que les mémorialistes en font état, parlent à chaque fois des hommes de confiance du roi. C'est l'homme qui est dans le secret du roi. On retrouve régulièrement ces expressions chez les différentes plumes du XVIIe siècle. Mais là où on est beaucoup, beaucoup plus précis, c'est vraiment dans les maîtresses royales, où là, vraiment, on a toutes les sources, vraiment, où on voit clairement les différents valets de chambre escorter les maîtresses royales. Alors, Bontemps, évidemment, est largement mis à contribution dans les pérégrinations nocturnes du roi, avec Madame de Montespan, puis avec les maîtresses de passade que le roi a eu, bien que Madame de Montespan soit toujours la maîtresse officielle et qui savait qu'elle récupérait de toute façon le roi à la fin quand la passade serait passée. Mais on les voit circuler la nuit, escortés discrètement dans les couloirs des différents châteaux. On voit Bontemps qui est clairement décrit, notamment au moment de la la liaison du roi avec la princesse de Soubise, où Saint-Simon écrit « C'était par bon temps ou par loin que passaient les lettres secrètes et que le roi écrivait de Versailles à Versailles. » C'est-à-dire que la princesse de Soubise écrivait au roi de Versailles et se répondait, ils étaient tous les deux à Versailles, mais ils s'écrivaient et toutes les lettres secrètes passaient par bon temps.
On peut imaginer, je reviens tout de même sur la politique, on peut imaginer, non pas qu'ils aient eu un rôle, mais qu'ils aient participé, qu'ils aient entendu des conversations et qu'ils en aient gardé le secret.
Oui, alors justement, voilà, pour faire un bon valet de chambre, c'est garder le secret. Alors il y en a qui ont été plus ou moins muets. Bontemps était réputé pour être une véritable tombe. Alors, c'est l'abbé de Choisy, je crois, qui dit ça. Autant essayer de tirer de l'huile d'un mur que de faire parler Bontemps. Et Bontemps était tellement humble, tellement dans son rôle de premier valet de chambre, fidèle auprès du roi, que c'était devenu un proverbe à Versailles. On disait de quelqu'un qui ne parlait pas, c'est un vrai Bontemps. C'était vraiment le proverbe. Il restait complètement à sa place.
C'est dire la fidélité et les liens qui unissaient le roi et son valet.
C'est-à-dire qu'il fait partie de l'environnement. Depuis que Louis XIV est né en 1638, Bontemps est là. Alors, il est plus jeune, mais il est vraiment à son service à partir de 1652. Il meurt en 1701, donc c'est près de 50 ans passé auprès de Louis XIV.
Louis XIV va pleurer davantage Bontemps que Madame de Montespan.
Oui. C'est-à-dire qu'il est très affecté par la mort de Bontemps le 17 janvier 1701. On a vraiment des témoignages où on voit le roi être très très affecté. On vient le prévenir et il récompense énormément ses enfants qui sont l'aîné a déjà la charge de premier valet de chambre, mais il est très affecté et surtout il y a des témoignages universels. On a dans la Gazette de France, le Mercure de France, des témoignages de l'époque où c'est un événement, la mort de Bontemps. On dit il n'a jamais fait de mal à personne, on vient de perdre un homme comme il n'en est pas un dans un siècle, ou il n'en est qu'un dans un siècle, et on dit toutes les églises depuis la Samaritaine, etc., sonnent pour la mort de Bontemps. Donc c'est vraiment un personnage qui est très important au sein de la cour. Il avait obtenu la charge d'intendant de Versailles, donc une charge très très importante, prépondérante au sein du château. C'est quelqu'un vraiment qui est réputé pour sa bonté, plus d'ailleurs à s'occuper des autres que de sa propre famille.
Qu'est-ce qui distingue un Bontemps d'un courtisan ?
Alors Bontemps, je vous le disais, c'est la fidélité, c'est l'effacement. C'est justement le courtisan va solliciter Bontemps énormément pour obtenir des choses, va passer pour un Bontemps et Bontemps va se plier en quatre vraiment pour satisfaire le mieux possible tout le monde. Il est sans cesse sollicité. Il y a d'ailleurs une petite anecdote qui est assez marrante à ce sujet. Il est tellement dans son cadre de serviteur qu'un jour on lui demande, ça c'est une petite note que j'avais retrouvée à la Bibliothèque nationale, on lui demande comment se porte votre femme. Et suivant son tic habituel, donc c'est ce que dit la citation, il répondit « j'en parlerai au roi ». Donc ce qui est quand même assez drôle d'avoir une réponse automatique comme cela. Et en restant à cette place, le roi l'appréciera comme un véritable ami. Et à ce sujet, on m'a retrouvé récemment, Hubert Bost, qui vient de faire paraître un livre sur Pierre Bell, m'a signalé dans les archives de Copenhague, donc je n'y serais jamais allé, une lettre de Pierre Bell, du moins de Pierre Curau de la Chambre à Pierre Bell. Et on est en 1686, Alexandre Bontemps envoie son fils en Hollande pour visiter Pierre Bell. Et donc, on voit qu'en fait, tout n'est pas si simple à l'époque. On est quand même en 1686, la révocation de l'édit de Nantes vient d'avoir lieu. Et Bontemps, qui est quand même le catholique par excellence, qui est très très pieux, envoie son fils en Hollande chez Pierre Bell, qui est quand même un protestant notoire. Et dans la lettre de Pierre Curau de la Chambre, qui annonce la venue de fils Bontemps avec son précepteur, l'abbé Charland, il dit « Je sais que vous recevez très très bien vos hôtes, mais je ne saurais trop vous recommander de bien les recevoir, car ils portent leurs recommandations avec eux. » Donc déjà, il y a une première accroche. Et surtout, pour la première fois, j'ai rencontré, où on voit, car vous n'êtes pas sans savoir que M. B, c'est-à-dire M. Bontemps le père, est favori du prince. Et c'est la première fois qu'on trouve vraiment la notion de favori pour Bontemps. Donc c'est vraiment pour vous donner l'idée la position dans laquelle se trouvait Bontemps auprès du roi.
Mmh. Alors, contre toutes les idées reçues, est-ce que les valets du roi étaient des hommes riches ?
Ah oui, Bontemps est très très riche. Alors il a beau ne rien demander, la richesse
il
pleut sur lui. Alors ne serait-ce que par ses charges, c'est-à-dire que la charge de valet de chambre lui rapporte déjà un certain nombre d'argent, mais surtout il est intendant de Versailles, donc ce qui lui rapporte quand même 35 000 livres par an. Bref, je vous passe toutes les différentes charges qu'il a et les différentes choses, mais pour vous donner une idée précise, j'ai pu estimer de façon précise son revenu annuel à 75 000 livres dans une fourchette basse. C'est-à-dire que je n'ai pas pu identifier les pensions qu'il devait certainement obtenir, mais que je n'ai pas trouvé. Donc, de façon certaine, il recevait 75 000 livres par an. Alors, il faut savoir qu'un ouvrier plus que qualifié à l'époque qui travaille à Versailles touche 400 livres par an. Que Madame de Maintenon estime à 12 000 livres le revenu nécessaire pour vivre convenablement un an à Versailles pour un homme célibataire avec 10 domestiques. Donc il en touche 75 000. Il a hôtel particulier sur l'île Saint-Louis, avec 13 domestiques, 5 maisons de rapport, petite maison de campagne, maison à Versailles, évidemment. Et voilà, donc c'est quand même quelqu'un de très très riche.
Alors ce qu'il y a d'étonnant, c'est que c'est véritablement une dynastie. Alexandre Bontemps, fils de valet, mais également père de valet.
Oui, alors c'est une dynastie qui s'étend sur 5 générations. Donc je vous disais tout à l'heure, le père d'Alexandre, qui est le fondateur de la dynastie, Jean-Baptiste, commence en 1643 jusqu'en 1659. Ensuite, il y a Alexandre Bontemps, le personnage d'aujourd'hui, qui meurt en 1701, puis son fils, qui aura moins de notoriété que son père, parce qu'il sera beaucoup plus âpre au gain, alors que son père savait rester à sa place. Alors il jouera beaucoup plus les grands seigneurs. Et donc son fils, Louis-Alexandre Bontemps. Ensuite, il y aura un autre Louis-Alexandre II Bontemps, le fils donc, de celui-ci, et un autre qui, malheureusement, n'aura même pas le temps d'avoir, qui aura la charge, mais qui mourra trop jeune, en 1766, et la dynastie s'éteint en 1766. Et au XVIIIe siècle, toute cette famille s'est mariée dans les plus grandes familles de robes et d'épées. Les filles ont épousé notamment le comte de la Chartre, qui passe, une des dernières filles, Bontemps, épouse le comte de la Chartre, qui passe pour l'homme le plus riche à l'époque de Louis XVI.
La charge de valet, donc, était une charge importante, on l'a compris, mais prisée également.
Alors, très prisée sous Louis XIV, après un peu moins, ce sont des personnes qui s'installent vraiment dans le paysage de la cour, mais ils cherchent à en sortir parce que effectivement tout Louis XIV leur a donné tout le prestige et après ils marient évidemment leurs filles dans les plus grandes familles d'épées, mais très prisées, oui, pour le rapprochement du roi.
Parce pour que, devenir courtisan, cette
voilà,
fois.
Voilà, le but est vraiment d'être proche du roi.
Eh bien, Mathieu Davigna, merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent se reporter à votre ouvrage majeur Les Valets de Louis XIV, ainsi qu'à l'émission que nous avons enregistrée ensemble, disponible dans la médiathèque de Canal Académie. Votre livre, Mathieu, est paru aux éditions Perrin. Merci et à très bientôt pour une nouvelle série consacrée au grand siècle.